Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous revoir encore aujourd'hui. Et ben, j'ai l'honneur de vous présenter quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Marie-Lise Richard-Robert du CAETFI. Comment ça va, Marie-Lise?
Ça va bien, toi?
Content de t'avoir avec moi.
Contente que tu m'aies invité.
Pour la prochaine heure, on va parler de plein de choses ensemble. Puis, comme d'habitude, on va commencer par un petit poème. C'est la tradition, là, je t'ai concocté un petit poème, et donc ça va comme suit, ça parle un peu de toi, j'espère, tu me diras si ça te représente bien. Okay. Chère Marie-Lise, on n'a pas besoin d'une grande analyse pour savoir que c'est avec ton cœur que tu exprimes tes valeurs. Une femme de conviction, avec beaucoup d'aplomb, une femme d'affaires qui a beaucoup de selfies dans son cellulaire. Elle est une travaillante acharnée. Elle ne se laisse pas mener par le bout du nez. Même quand elle est blessée et amochée, elle ne veut rien manquer. On s'est découvert au CA une relation qui a débuté coup-ci, coup-ça. Il a fallu une soirée d'animation et un peu de boisson pour qu'on soit au même diapason. Tu es une femme à découvrir, il suffit de s'ouvrir. Tu es comme le bon vin, tu gardes le meilleur pour la fin.
Oh, voyons, j'ai le goût de pleurer. C'est vraiment émouvant.
C'est pas payé.
Ben, ça me représente bien.
Bon, excellent.
Ça représente bien notre relation.
Oui, effectivement, effectivement. Ça fait pas si longtemps qu'on se connaît. Ça fait quoi, à peu près un an, un an
deux
et demi?
Ans.
Là.
Ça fait deux ans que je suis au CA. Bon. Peut-être un an et demi. Là, les premières
exact.
Semaines au CA, on s'est moins côtoyés, mais...
Oui. Alors, lors d'une bonne discussion, on a appris... à se connaître un petit peu plus, puis depuis ce temps-là, ben, on prend le temps de se jaser quand on a des moments.
C'est ça, exactement.
Ben, aujourd'hui, on va parler plus de toi, et on va commencer avec ton enfance. Là. Je veux savoir comment elle était la petite Marie-Lise là, à l'école primaire. C'était quel genre de fille?
Hey, je te dirais probablement quand même ce que je suis encore aujourd'hui. Il y a quand même des choses qui demeurent. Une personne quand même à prime abord discrète, que je pense que j'étais aussi un enfant qui était assez discrète au départ. Tu sais, quand j'arrive dans un groupe, quand je rencontre des gens, quand j'arrive dans une activité, c'est ça, plus en retrait, j'observe, j'essaie de comprendre un peu les dynamiques. Tu sais, moi, j'étais le genre de petite fille, que, tu sais, c'est vraiment un running gag dans ma famille, là, mais tu sais, mes parents m'avaient inscrit à des cours de natation. Puis, les 10 semaines de cours, je suis restée sur le bord de la piscine et j'ai fait aucun exercice. Et là, évidemment, la monitrice de natation est allée voir mes parents. Elle a dit, écoutez, la semaine prochaine, c'est les évaluations. C'est sûr qu'elle ne passera pas son niveau. Elle n'a fait aucun exercice de la session. Mais mes parents étaient découragés. Voyons, Marie, let's go, tu sais. Puis finalement, écoute, au moment où c'était les examens, j'ai tout réussi.
Écoute, tu observais comment ça se passait, là.
Ça. Non, mais c'est vrai. J'ai été souvent comme ça, tu sais, j'ai été souvent celle qui n'est pas... Mais une fois que je suis à l'aise, quelqu'un d'impliqué, tu sais, qui a du leadership, qui aime ça monter des projets. Déjà, j'étais au primaire, je me souviens, en cinquième année, j'organisais le bingo des maternelles à Noël. J'étais sur le conseil étudiant. Quand je suis arrivée au secondaire, j'avais monté une grosse troupe de danse. On avait des... Parce qu'au secondaire où j'allais, c'était primaire-secondaire. J'avais monté une troupe de danse avec deux de mes amis, puis on faisait des spectacles devant 500-600 parents à la fin de l'année. Fait que, même à l'université, j'étais dans le comité album. Puis j'ai toujours aimé ça quand même, m'impliquer. Mais ça me prend toujours un petit moment, là, comme je te dis, depuis que je suis petite, pour prendre le temps de...
T'as quand même un franc-parler. Est-ce que dès le primaire, quand c'était le temps de s'exprimer, tu étais capable, par contre, d'émettre ton opinion puis de dire « je suis pas d'accord avec ce qu'il y a d'être dit » ou c'était plus tranquille à cette époque?
C'était plus tranquille.
Est-ce que c'est apparu cette affirmation de soi de dire, regarde, moi, je pense peut-être différemment des autres, je m'exprime, puis c'est pas grave?
Oui. Écoute, je te dirais, il y a un événement dans ma vie qui a quand même changé mon... tu sais, le côté, on a peur du jugement que les gens vont porter sur nous. Ça va être vraiment ridicule, là, je m'excuse d'avance. Non, mais c'est que... J'allais à l'école secondaire à l'Académie de la Fontaine ici et il y avait un carnaval à chaque année. Puis en secondaire 2, en fait, c'était le moment du carnaval et tous les groupes devaient présenter un numéro. Donc, chaque classe présentait un numéro. Et fouille-moi comment, parce que ça, c'est typique de ma vie, je me retrouve toujours mêlée dans ce genre de situation-là. Je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvée avec mon groupe d'amis, que c'était nous qui organisions en fait le spectacle. Et alors que tous les groupes faisaient des numéros de cheerleading, puis tu sais, de trucs pour les mettre en valeur. Nous, on avait décidé de se mettre un sac à poubelle avec une cravate pour se déguiser en Flintstone et de faire la chorégraphie la plus humiliante de l'histoire de l'humanité, je te le dis. Et là, donc, tu te présentes devant les 1000 quelques élèves de ton école et je me souviens, la chanson a commencé. On est rentré en sac à poubelle en Flintstone. On a commencé notre chorégraphie et on a entendu les gens, là, tu sais, là, mourir de rire. Là. Puis on a entendu parler de ça. Là. Puis ce jour-là, j'ai été tellement gênée. J'avais tellement honte parce que jusqu'à ce moment-là, j'étais la petite Marlise que, tu sais, tu me croisais dans le corridor, mais tu sais, bien discrète. Je me suis dit, hey, pour vrai, il n'y aura jamais rien de plus humiliant que ça. Fait que tu as vécu le pire. Maintenant, quand tu as quelque chose à dire, dis-le. Quand tu as quelque chose à vivre, vis-le. Puis, fait que ça a commencé à changer là.
C'est fascinant comment un événement peut changer des fois. Tu as pris un autre chemin, tu t'es
Absolument.
dégrené.
Absolument, puis ça m'a aidé, tu sais, après ça, dans tout, là, au niveau de l'animation. Tu sais, je suis sûre que si tu demandais à mes parents. Quoique, déjà très jeune, tu sais, j'organisais, je t'ai apporté quelque chose, OK?
Oh,
C'est qu'à
cadeau
un moment donné,
surprise!
ben, oui, je t'ai apporté. C'est qu'à un moment donné, avant de, bon, de faire, de venir travailler à être fille en temps plein, j'ai été enseignante, tu sais, et j'avais demandé à mes élèves de montrer leur, il fallait qu'ils fassent une ligne du temps de leur vie. Fait que
OK.
moi, en exemple, j'avais fait ma ligne du temps, OK? Fait que j'avais mis, regarde ici la photo de moi en deuxième année, parce que moi, j'enseignais en deuxième année. Je ne sais pas si tu la vois.
Oui.
Et tu vois-tu tous mes toutous? Ils étaient tous placés en randonnion avec des feuilles. Comme, tu sais, parce que je voulais être prof. Puis là, regarde, ici, ça, c'est quand j'étais très, très jeune, ma première année d'animation. Et
Tabarouette, OK.
déjà, quand j'étais vraiment tout petite, tu sais, j'avais une garderie dans le sous-sol chez mes parents. J'avais genre 10 ans, puis je gardais tous les petits voisins là, autour. Je les amenais en sortie au Pays des Merveilles. Puis les parents étaient contents. Mais tu sais, j'avais 10, 11 ans, là, c'était pas... J'avais 7, 8 petits amis avec moi. Je mettais en cercle, je les amenais en sortie. Genre, tu sais, on faisait à dîner. Fait que j'avais quand même ce côté-là. Fait que, tu sais, mes parents diraient qu'ils sont pas surpris que je finisse prof ou en animation, mais le côté vraiment... Non, je pense que mes parents diraient qu'ils sont pas surpris que je m'affirme
Mais
non plus.
est-ce que déjà au primaire, tes parents t'inscrivaient dans les camps? Est-ce que tu faisais des camps étant jeune?
Je ne suis jamais allée dans les camps.
T'es jamais allé dans les camps, mais tu faisais ton propre camp avec tes amis, avec tes voisins et tout ça.
C'est ça.
Okay.
J'ai fait une année, une semaine dans un camp de vacances. Et j'ai détesté ça.
On ne dira pas c'est où.
Ça n'existe plus, donc c'est fermé maintenant,
Okay. Fait
mais...
que c'était pas un souhait quand tu étais jeune, tu te disais pas j'ai goût d'aller au camp, parce que là, tu sais, tu disais, tu t'organisais ça dans ta cave, tu aurais pu dire hey, moi aussi je veux le faire, je veux le vivre vraiment un camp, mais non, tu t'amusais avec tes amis, tout ça. Donc, ça part de où l'histoire avec les camps pour toi?
Mais c'est qu'en fait, je pense que j'aime animer. Tu sais, j'aime faire vivre une expérience. J'aime ça. Je pense que je suis une personne quand même créative. J'aimais ça, organiser des affaires, faire des chasses au trésor, voir la réaction des gens quand ils vivaient. Tu sais, tout ça, j'aimais ça. Mais je suis d'emblée pas une personne qui aime tant que ça se faire animer. Fait que, tu sais, quand j'allais, mettons, à la petite fête de quelqu'un, puis qu'il y avait un clown, je m'amusais pas tant que ça, tu sais. Fait que, puis tu sais, encore aujourd'hui, sauf quand c'est toi qui animes, tu es un excellent animateur, là, il faut quand même ça se le dire. Mais encore aujourd'hui, tu sais, c'est ça, je suis pas un super bon public à animer. Je préfère, je sais pas, j'aime ça quand, j'aime ça moi animer, j'aime ça faire vivre quelque chose aux autres, j'aime ça... Donc, je pense que comme quand j'ai commencé ça dans mon sous-sol, puis à un moment donné, à 14 ans, j'étais allée au Pays des Merveilles, puis j'ai été le petit chaperon rouge. Donc, je racontais, je faisais des théâtres de marionnettes pendant comme 2 semaines, mais ça n'avait pas été une super belle expérience pour moi. Puis finalement, je me suis retrouvée comme assistante monitrice au camp de la ville. J'ai fait quelques années là comme en animation, puis je me suis découvert un côté T'sais, pas avoir peur du ridicule, animer des choses. C'est sûr qu'au camp de la ville, c'était loin de ce que, par exemple, nos animateurs vont vivre au camp de filles. C'était, tu sais, t'as deux ballons, t'as une montagne, bon été. Là. Fait que ça allait vraiment chercher notre système D. Puis nous assurer, on avait les mêmes jeunes les 8 semaines. Fait que nous assurer qu'ils vivaient des choses différentes. T'sais, ça, c'était quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Plus que. Mais j'ai jamais eu vraiment l'appel de me dire j'ai envie d'aller, moi, comme campeuse, au camp.
Tu peux dire là, ton passage comme animatrice, est-ce qu'il y a des choses que tu as développées, tu t'es dit ça, j'aurais pas été animatrice, peut-être que comme professeur un peu plus tard, je l'aurais peut-être pas développé ça. Y a-tu des choses qui te viennent à l'esprit?
Ah, mais vraiment, premièrement, la capacité d'adaptation. Tu sais, là, sur un 10 scènes, il arrive un événement, tu es capable de, tu sais, de te débrouiller, fait que changer vite de plan, tu sais, avoir un plan. Ah, tu sais, moi, j'étais le genre d'enseignante, là, mais moi, premièrement, je le dis tout le temps, j'ai de la difficulté à concevoir que tu peux t'en aller en enseignement si tu n'as pas, à un moment donné, travailler dans un camp. C'est comme des outils totalement. Tu sais, moi, j'ai travaillé quand même dans Montréal-Nord pendant plusieurs années. C'est une clientèle très difficile. Et tu sais, moi, j'étais le genre de prof, j'arrivais déguisée la première journée, puis j'amenais mon bac à costume, je déguisais mes élèves, prendre les photos sur les casiers, puis on faisait des mises en situation pour les routines. C'est tous des éléments que je faisais au camp avec mes jeunes. Tu sais, je me déplaçais dans le corridor en agent secret avec mes élèves, puis fait que ça m'amenait à faire beaucoup moins de discipline, puis je pense que ça faisait en sorte que les enfants avaient beaucoup de plaisir dans ce contexte-là, même si c'était à l'école. Fait que ça, c'est des choses que je pense que tu peux difficilement apprendre ailleurs. Je pense qu'au niveau du camp, c'est important.
Est-ce que le souhait d'être professeur remontait déjà, mettons, dans ton enfance? Tu as toujours voulu être professeur quand tu étais jeune?
Oui, toujours.
Est-ce que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a marqué ou pourquoi? Est-ce que tu le sais?
Oui, ma prof de deuxième année, elle s'appelait Janine Guénette. J'ai
On
eu
la
l'occasion
salue.
de dire, on la salue, mais écoute, elle a pris sa retraite 2 ans après que moi j'ai été en deuxième année. Fait qu'elle est quand même âgée, mais elle vit encore à Sainte-Adèle et tout ça. Oui, Janine Guénette, ça a été ma prof de deuxième année. Puis je pense l'année que j'ai passée dans sa classe, je me suis dit un jour, je vais être un prof, puis je vais être un prof comme elle. C'était une prof qui, à un moment donné, en plein milieu de la journée, elle voyait qu'on bougeait un peu, là, puis elle disait, OK, on tasse tous les bureaux, je vous apprends à faire une gigue aujourd'hui. Fait que là,
Ah
elle nous
oui.
apprenait plein de sortes de danses. Elle faisait des dîners récompenses. Elle habitait pas loin de l'école, puis elle habitait dans une maison 3 étages. Puis elle avait des canards, il y avait une rivière sur sa main, t'sais, sur son terrain, puis elle avait des animaux. Fait que les midis, elle faisait des midis récompenses, elle nous amenait dîner chez elle, on allait voir les animaux, elle nous faisait des sandwichs. Je trouvais que c'était un. À ce moment-là, je ne peux pas le savoir, mais avec le recul, je m'en souviens, puis je le sais. Mais c'était un contexte d'apprentissage stimulant. On avait développé un lien de confiance avec elle, un lien marquant, puis ça nous donne envie d'être dans sa classe, ça nous donne envie de bien nous comporter, de bien travailler parce que on était en confiance avec elle, puis on savait qu'après ça, elle nous faisait faire des trucs super intéressants. Donc, puis c'est elle qui m'a donné envie d'aller en enseignement.
Bon, si elle ne sait pas, elle le sait aujourd'hui. On lui
Oh,
fait un
oui,
message. Elle
elle
sait,
sait,
oui.
j'ai dit, il y a quelques années, je l'ai croisée. Dans un magasin à Sainte-Adèle, puis je lui ai dit,
Wow, ça va être un beau moment, ça. Toi, tu avais étudié pour devenir professeur, donc.
ouais.
Comme professeur, tu l'as fait combien d'années, professeur?
Je l'ai fait 7 ou 8 ans.
Mettons que je te demande, c'était quoi la force de Marie-Lise comme professeur, puis c'est quoi la chose que. Tu continues à travailler parce que c'était pas tout à fait là encore.
Ma force, je te dirais, je pense que c'était mon dynamisme, mon dynamisme, mon implication, là. Moi, j'aimais ça. J'étais dans le conseil d'élèves, dans le comité EHDA pour les élèves en difficulté. Je suivais beaucoup de formations, je m'embarquais dans des projets. Fait que ça, je pense que ça me tenait motivée. Ça faisait en sorte que mes élèves restaient motivés parce qu'il y avait toujours plein de projets sur la planche. Et je pense que les choses que j'avais à travailler, probablement mon franc-parler. J'ai pas le choix
Et tu
de
en parlais avec les élèves ou avec tes
te
collègues?
dire. Avec la direction.
OK, directement, oui.
Non, mais dans le sens que je suis. Je n'ai pas une personnalité faite pour être, pour travailler dans ce milieu-là, je pense, dans le sens que c'est un milieu pour une personne qui a, comme moi, qui est comme, hey, on va faire telle affaire, on va faire telle affaire, tu sais, de toujours te faire comme, ah, ben là, tu sais, on a des budgets, ah, là, tu peux pas être libéré, ah, là, ça, tu peux pas. Ou d'observer, parce que j'étais dans un milieu où, évidemment, les élèves avaient des grandes difficultés. Mais d'observer tous les bâtons qu'on te mettait dans les roues, tu sais, alors que je viens de voir, puis je te dis que cet élève-là, il a des grandes difficultés, puis il faut y apporter de l'aide, puis ah ben là, on n'a pas. Fait que, tu sais, puis ça me mettait comme hors de moi, là. Fait que c'est sûr que j'ai eu des moments où j'ai eu des confrontations où, tu sais, j'ai fait part de ma déception, là. C'est de façon polie, mais tu sais, c'est ce qui m'a amené de toute façon éventuellement à quitter, là.
Est-ce que Marie-Lise est capable d'être gérée par quelqu'un d'autre?
Un bout de temps, oui. Un bout de temps, oui. Tu sais, ben, ça dépend. Ça dépend qui est l'autre. Tu sais, je pense que si j'avais trouvé un bon fit avec quelqu'un qui aurait réussi à m'entrer dans son. Tu sais, je pense que c'est le défi quand on est gestionnaire de faire en sorte que les gens qui travaillent avec nous, on les embarque dans notre bateau, puis on les motive, puis on arrive à rejoindre leurs valeurs et tout ça. Puis c'est. Tu sais, peut-être que j'avais pas trouvé parce que j'ai pas vraiment eu d'autres. Tu sais, j'ai fini mon bac, j'ai juste travaillé en enseignement. Fait que j'avais peut-être moins ça avec ma direction de l'époque, là, quoi qu'elle avait plein de belles qualités, là, c'est pas ça le point. Mais moi, tu sais, ça me rejoignait moins. Fait que c'est sûr que. Puis même au-delà de travailler pour quelqu'un d'autre, parce que moi, je pourrais avoir un boss, juste même, tu sais, des collègues, tu sais, même travailler avec des collègues, il faut un peu que tu travailles avec des gens qui partagent. J'ai été super gâtée, super chanceuse, là. J'ai eu des collègues extraordinaires à qui je parle encore régulièrement, mais c'est ça. C'est important pour moi.
On se rapproche d'Edfi, là. Où est-ce que Edfi apparaît dans ta vie? Là, tu es enseignante depuis donc 7-8 ans. Edfi apparaît comment dans ta vie?
Dans le fond, moi, comme je te dis, j'ai commencé à travailler au camp municipal. Et à un moment donné, ben, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de pouvoir t'sais, partager un peu mes. J'ai fait le tour de faire mon groupe, puis de cet environnement-là. Puis il y a eu une ouverture. En fait, ma meilleure amie à ce moment-là travaillait dans un camp Edfi comme chef d'équipe. Puis elle m'avait dit, ah, il y a une ouverture là, peut-être que tu pourrais venir. Donc j'ai passé l'entrevue. J'ai commencé à travailler au camp Edfi en 2005. Comme chef d'équipe. J'ai fini mon bac en 2008, fait que j'y étais pendant mes études. Et ensuite, ben voilà, j'ai fait quelques années chef d'équipe. L'année suivante, je devais être adjointe. Finalement, le coordonnateur a quitté un peu avant l'été, donc je suis devenue d'emblée coordonnatrice. J'ai passé quelques années dans cette entité-là. Puis à un moment donné, encore une fois, quand ça fait 4-5 ans, tu sais, j'avais l'impression que moi, j'avais apporté tout ce que je pouvais. Puis que pour ce camp-là puisse aller ailleurs, ben, des fois, on a besoin de 109, d'une nouvelle vision. Tu sais, moi, j'étais rendue au bout de ce que je pouvais, je pense, apporter de mieux à cette entité-là. Donc,
Avant d'aller plus loin, Marie-Lise, je veux revenir quand tu étais coordonnatrice. C'était quel type de coordonnatrice?
j'étais quel type? J'étais une coordonnatrice, je pense, très rassembleuse, très proche de mon équipe. T'sais, je pense que tu demanderais aux gens qui ont travaillé avec moi, t'sais, une des choses qui me caractérisait, moi, j'achetais toujours des Kinder Surprise à mes moniteurs, là, puis à mon équipe. Puis là, tu vas me demander, mais pourquoi donc?
Ben
Parce que
oui.
moi, je leur disais tout le temps, hey, y a-tu quoi de plus fun qu'un Kinder Surprise? Parce que quand tu l'ouvres, tu sais jamais qu'est-ce que tu vas avoir comme surprise dedans. Fait que moi, je leur donnais ça en émulation, puis je leur disais, écoutez, je vous le donne. La journée que vous allez avoir eu une mauvaise journée, et les jeunes, là, aujourd'hui, ça marchait pas, ou tu sais, peu importe. Mais là, vous allez ouvrir votre Kinder Surprise, vous allez penser à moi, puis vous allez vous souvenir, hey, c'est cool, tu vas avoir une surprise, puis je pense à toi, puis je suis derrière toi. Et ce que les gens peut-être ne savaient pas, moi, j'utilisais ça comme signe. Quand je voyais qu'un moniteur, à la fin d'une journée, ouvrait
Wow!
Kinder Surprise, je me disais, yesh, il n'y a pas eu une bonne journée, je vais aller le voir. Hey, puis ça a bien été ta journée. Fait que je pense que j'étais ce genre de, tu sais, j'étais la genre de coordonnatrice qui avait toujours ma porte ouverte, beaucoup sur le terrain, toujours ma porte ouverte. Puis souvent, tu sais, le soir à 4 heures, les gens venaient écouter des vidéos sur YouTube, on chantait des chansons. Et plusieurs te diraient, elle faisait rien, elle était tout le temps assise. Puis, mais non, moi, je pense que c'était ma partie la plus importante de ma journée parce que c'est le moment où les gens venaient puis me disaient, hey, ça aujourd'hui, hey, ça, cette activité-là, c'est poche, hey, ça, c'est tout pété, hey, ça. C'est là que j'allais chercher les éléments les plus importants qui me permettaient de donner après ça un meilleur service et être plus proche de mon équipe.
Quelle bonne idée, Marie-Lise, honnêtement, là,
Oui?
oui, parce que ça a un double sens, c'est
Oui?
surprise que tout le monde apprécie, mais ils te permettent d'avoir un message, t'sais, je trouve ça formidable, puis tu as raison, pour avoir été chef de camp pendant 10 ans, moi, la période que je préférais, c'est quand tous les jeunes étaient couchés, puis je pouvais jaser avec mes animateurs, c'est là que j'apprenais le plus sur eux, puis le lendemain, comme par magie, il y avait un changement dans l'attitude parce qu'on avait pris le temps de jaser, moi, je disais, ma porte est ouverte même quand je ronfle. T'sais. Tu veux cogner, il n'y a pas de problème si tu l'as.
Absolument, mais je pense qu'on se rejoint vraiment là-dessus. Je pense que j'étais vraiment une personne comme ça. J'étais une personne sensible, vraiment sensible. Tu sais, des fois, ça m'a peut-être amené à des difficultés, par exemple, parce que si je sentais qu'il y avait des gens qui n'étaient pas contents, des choses comme ça, moi, ça vient me chercher. Puis, fait que, tu sais, ça, j'ai eu à travailler ça. J'ai encore à travailler ça. Mais, ouais, mais je pense que. Puis j'ai. En général, j'ai encore contact avec beaucoup de membres de mon équipe depuis plus de 10 ans. Il y en a beaucoup qui font encore partie de ma vie. Puis on a vraiment développé un beau lien de confiance ensemble. C'est vraiment précieux pour moi.
Je suis pas surpris. Donc, tu fais 4 ans comme coordonnatrice. Par la
Oui.
suite, qu'est-ce qui se passe?
Puis après ça, je me dis, bon, ben là, j'ai fait le tour de ce camp-là parce qu'au camp INFI, on a différentes entités. Donc, dans cette entité-là, j'avais fait mon temps. Là, c'est sûr, j'étais rendue enseignante. Fait que je travaillais toute l'année. Puis c'est sûr que, tu sais, quand on est enseignant, à la fin de l'année, il y a toujours comme les journées pédagogiques qui sont souvent notre première semaine de camp. Ça me demandait quand même souvent des négociations avec ma direction d'école parce que ça se chevauchait. Donc là, tu sais, j'avais discuté à ce moment-là avec mon patron, avec mon supérieur, qui lui était comme, qui avait un poste à temps plein. C'est le directeur général, travaillait à temps plein. Puis lui, il me disait toujours, Marie, prochain poste à temps plein qui s'ouvre, ça va être toi, ça va être toi. Puis je me disais, bon, mais tu sais, je vais continuer, je veux rester dans le loop, je veux pas qu'on m'oublie parce que j'aimerais ça venir travailler à temps plein éventuellement. Et éventuellement, on a ouvert un nouveau camp, un nouveau site. Donc, il m'a proposé, est-ce que tu veux aller ouvrir ce nouveau site-là? Donc, là, j'ai passé 2, 3 ans là. Puis après ça, ben là, j'avais fait mon temps là aussi. Donc, il m'a proposé d'être son adjointe. Donc, c'était toujours de façon saisonnière. Mais là, je faisais la tournée des camps. J'allais m'assurer que le service était bien rendu. Je faisais des petits rapports. J'allais apporter du soutien au cours d'eau. Et ben ensuite, en 2014, quand M. Dubois a décidé de vendre l'organisation, ben François, qui était mon supérieur à ce moment-là, et moi, on s'est associés ensemble. Puis on a fait l'acquisition d'Edfi. Et donc là, j'avais pris une année sans solde de mon poste parce que là, j'avais ma permanence, j'avais mon poste permanent, tout ça, à la Commission scolaire de Montréal. Et j'avais pris une année sans solde, puis j'avais dit à François, tu sais, je vais venir essayer avec toi, puis tout ça, puis au pire, si j'aime pas ça, ben, je vais reprendre mon poste, puis on nommera quelqu'un, puis je viendrai juste l'été. Mais je suis jamais retournée.
Ça, on est en quelle année, le rendu là?
2014.
2014. Est-ce que tu pensais à 2014 que tu resterais là finalement? Est-ce que tu disais ça va être à long terme ou tu disais bon, on va essayer puis.
Bien, je me disais, je vais essayer. J'avais des projets. Mon père est quand même un entrepreneur. Mon père est un. Tu sais, j'ai grandi dans une famille de personnes entrepreneurs. Mon père, ça faisait longtemps qu'il me disait, t'es pas faite pour être, tu sais, dans la fonction publique ou t'es pas. Tu sais, et c'est ça. Puis d'avoir une base de plein air, c'était comme un de mes projets de vie. Alors, là, tu vas me dire, mais pourtant, tu n'y as jamais été toi-même. Tu as raison, mais j'étais quand même quelqu'un qui fait beaucoup de ski, qui fait du vélo. Tu sais, j'étais quelqu'un qui aimait ça, le plein air et tout ça. Puis j'avais le goût de travailler avec les enfants, de faire vivre ça. Donc, avec mon père, j'avais quand même, dans les années préalablement, tu sais, regardé quelques terrains où on pourrait développer des choses, certains projets. Donc, quand il y a eu cette opportunité-là avec Edfi, je me suis dit, bien, ça correspond vraiment à mes valeurs, à ce que je veux faire vivre. C'est une organisation qui est bien établie. Que je connais bien parce que j'y grandis depuis plusieurs années. Donc, Comme je te dis, je voulais essayer parce que j'aimais quand même beaucoup ça enseigner. T'sais, si on enlève là, le côté plus la paperasse, puis le fait que on a certaines barrières, le contact avec mes élèves au quotidien, j'adorais ça. Fait que c'était plus, j'avais peur, est-ce que je vais être capable de faire mon deuil de
Ouais.
ça?
Est-ce que ça a pris un certain temps? Est-ce que tu l'as fait complètement?
Non, non, je ne retournerai pas, mais ça, presque tout mon réseau social, mes amis sont enseignantes ou dans le milieu. Fait que j'ai l'occasion des fois, tu sais, d'aller dans leur classe, d'accompagner dans une sortie. Tu sais, j'ai encore. Mais les premières années, tu sais, quand je les regarde vivre la rentrée, tu sais, faire des. Là, des fois, ça me fait un petit pincement au cœur, mais en même temps, t'sais, je le vis aussi avec le camp. T'sais. Mais c'est que je me disais, est-ce que ce quotidien-là, en directement avec les enfants, parce que c'est sûr que dans mon rôle actuel, oui, là, je les vois, les enfants, j'interagis avec eux, mais pas comme le lien que tu développes en 10 mois avec des élèves. T'sais. Fait que, ouais.
Il y a des gens peut-être qui connaissent moins EDFI. Fais-moi donc un petit résumé. C'est quoi ça, EDFI? Est-ce qu'on dit EDFI international? EDFI, c'est quoi l'appellation juste?
C'est EDFI International, mais EDFI, c'est comme son petit nom, son petit surnom.
Parfait.
Ben, EDFI, c'est drôle que tu m'en parles parce que la semaine prochaine, je donne une conférence à la Société d'histoire de Valmorin sur EDFI. Puis j'ai eu plusieurs échanges avec le fondateur dernièrement là-dessus, puis M. Dubois qui a fondé le camp EDFI. Il est quand même plus âgé, là. Il a fondé le camp EDFI en 1965 et c'est comme le seul détenteur, t'sais, de la mémoire de l'organisation. Il a écrit ses mémoires aussi qui nous a fait parvenir là, en privé, que j'ai eu l'occasion d'y lire, de lui poser plein de questions. EDFI, à la base, M. Dubois, en fait, lui, c'était un professeur d'éducation physique, donc il a été formé en éducation physique. Il trouvait dans les années 60 que, en fait, l'éducation physique, ça n'existait pas dans le cursus scolaire. Donc, il me disait qu'il y avait une poignée d'établissements qui faisaient ce qu'on appelait de la culture physique, mais l'activité physique là, pour le développement des enfants, c'était inexistant dans le cursus scolaire. Lui, c'était un joueur de baseball professionnel qui a joué dans les ligues majeures aux États-Unis et tout ça. Finalement, il a quitté ça là, au cours de sa carrière. Il est revenu ici. Mais lui, il avait une grande préoccupation. Puis il me disait, dans les années 60, les sports qui étaient connus, c'était le baseball, le hockey, puis le football. Mais il dit, il n'y avait pas d'intérêt pour les sports amateurs, alors que les sports amateurs, ça amène beaucoup, tu sais, au développement et tout ça. Donc, il a travaillé à Ville-Saint-Laurent, a développé des terrains de jeu. Ensuite, il a développé un centre de loisirs à Terrebonne. Puis, il s'est fait approcher par Marcel de la Sablonnière, qu'on connaît par le Petit Bonheur, pour fonder l'Association nationale des centres de loisirs. Donc, le gouvernement fédéral avait donné comme mandat à Marcel de la Sablonnière, je veux que tu fondes une association où, à travers le Canada, tous les centres de loisirs vont se mettre ensemble et vont, comme premier mandat, faire une étude de comment se vit le loisir, le plein air, l'éducation à travers le monde pour voir où au Canada on se situe puis de quoi on pourrait s'inspirer. Donc, M. Dubois a fait le tour d'une vingtaine de pays dans le monde. Il est allé observer comment les gens vivent. Le plein air, le loisir, tout ça, sont revenus ici, ils ont écrit un rapport et lui, il s'est dit, je dois absolument fonder un centre de plein air comme celui d'Edfi parce qu'il dit, il n'en existe pas. À ce moment-là, il y avait le Petit Bonheur seulement, sinon c'était plus au niveau, puis même le Petit Bonheur, c'est vraiment plus lié aux communautés religieuses et c'était tous des OBNL. Donc lui, il a décidé de faire l'acquisition de notre terrain qu'on a maintenant à Valmorin. Et de développer le camp EDFI, qui a été le premier centre de plein air privé, qui a été le premier centre de plein air mixte, donc qui accueillait des garçons et des filles, qui a été le premier centre de plein air aussi à faire l'accueil de groupes scolaires. Donc, ce qui a amené M. Dubois ensuite à travailler avec le ministère de l'Éducation, puis à participer au développement des cours d'éducation physique à travers les programmes scolaires. Donc, EDFI, ça a commencé comme ça. Monsieur Dubois est un grand fan de Pierre de Coubertin, qui est à l'origine, évidemment, de
Jeux
l'Olympisme.
olympiques. Québec, oui.
Exactement. Donc, M. Dubois avait, entre autres, un très grand intérêt pour ça. Il a organisé en 64, 66 et 67 les Jeux gymniques qu'on appelle. T'sais, c'était des gros jeux, là. C'était un spectacle de 2 heures. Il y avait 8 000 athlètes de partout au Canada. C'était au Forum. Il y avait 16 000 personnes dans les estrades. Et ça a pris tellement d'envergure qu'après, tu vois, il s'est fait approcher par le gouvernement du Québec et les Jeux gymniques sont devenus les Jeux du Québec qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça l'a amené après à participer à l'Expo 67. Donc, c'est tous les employés d'EDFI qui étaient au pavillon jeunesse à l'Expo 67 qui organisaient les événements sportifs. Ça l'a amené à être le maire directeur général du village olympique des Olympiques de Montréal à 76. Donc, c'est ça, c'est quelqu'un, mais toujours avec EDFI. Donc, c'était toujours son équipe EDFI qui l'accompagnait, tout ça. Donc, c'est vraiment bien ancré en nous, ce côté-là, international, ouverture sur le monde, c'est solidarité, fraternité et évidemment, bon, le sport, le développement des jeunes et tout ça.
Bon, Caroline, tu vas être bonne dans dans ta
Merci.
conférence. On voit que tu connais ton sujet.
Merci.
Il y a un élément que tu as nommé que je veux absolument parler, c'est le côté privé.
Oui.
Hein? Qui dit privé dit argent, hein? Bien sûr. Est-ce que c'est encore tabou selon toi, un camp qui veut faire de l'argent, comparativement à l'industrie qui, à grande majorité, sont souvent des organismes, soit à but non lucratif, tout ça? Est-ce que tu sens qu'il y a comme un tabou face au camp privé encore aujourd'hui?
En fait, je pense que le tabou qui est face au camp privé ou l'idée préconçue que les gens ont face au camp privé, c'est comme si parce qu'on est privé, on veut faire de l'argent et que la mission passe en deuxième.
OK,
Tu
intéressant.
vois? Alors que, effectivement, bon, EDFI, c'est une organisation privée, ce qui, évidemment, ça peut être lucratif, ça amène des revenus, mais en demeure pas moins que nos revenus, tu sais, retournent dans l'organisation pour l'entretien de nos infrastructures. T'sais, on n'est pas des personnes riches, on n'est pas, et on a le même souci, et notre priorité demeure la même que toutes les organisations qui ne sont pas privées, c'est-à-dire de participer au développement des participants, de faire découvrir le plein air. Alors, est-ce qu'à prime abord, on nous catégorise comme des personnes qui sont plus à l'argent ou qui sont plus dans le monde des affaires? Probablement. Est-ce qu'on a un modèle d'affaires qui est différent d'un autre BNL? Effectivement aussi. On n'a pas nécessairement le même fonctionnement et tout ça. Mais je pense que quand les gens prennent le temps de nous connaître, ils arrivent à faire la distinction et je ressens moins qu'avant ce genre de jugement-là parce qu'on est un camp privé.
Bon, la pandémie a fait en sorte que les camps ont dû se mobiliser. D'ailleurs, les camps privés, vous êtes mobilisés. Qu'est-ce que vous avez apporté à l'industrie des camps, les camps privés, selon toi?
Peut-être une petite dose de désespoir. D'instinct de survie, parce que quand tu es privé, puis tu sais, j'enlève pas évidemment l'importance de l'emploi et tout ça, mais tu sais, quand tu es privé, je veux dire, moi, ma maison, mes avoirs, mes REER, je veux dire, moi, je cautionne tout personnellement sur mon organisation. Fait que demain, mon organisation ferme, je perds tout ce que j'ai accumulé dans ma vie. T'sais. Fait qu'il y avait ce côté-là, puis les camps privés, ben on est très rarement, pour ainsi dire, jamais inclus dans tous les programmes de subvention ou d'aide et tout ça. Donc, je pense que notre rapport était plus au niveau financier, dans le sens qu'on n'avait aucun doute sur la gestion du guide, des procédures, des opérations et tout ça, mais au niveau peut-être financier, ben on avait plus je pense, peut-être une expérience à ce niveau-là qui nous permettait peut-être d'amener des idées nouvelles pour nous assurer qu'on allait aussi être considéré dans l'aide financière.
Est-ce que la pandémie, bon, ça a fait mal à plusieurs organisations. Il y a des organisations qui ont comme ça, il y a eu une vague, puis après ça, c'est comme si, bon, c'était passé, c'est tout. Est-ce que ça vous a touché fortement? Est-ce que financièrement, ça a été une période difficile pour vous?
Ça a été une période difficile. Je pense qu'une des choses qui nous qui était intéressante ou un genre de filet de sécurité pour nous, c'est que je pense pas qu'il y a d'autres camps de vacances ou bases de plein air qui ont cette formule-là, mais nous, au Carré de Fils, dans nos installations, on a un collège privé de 400 élèves annuellement. Donc, nous, dans le fond, on loue nos installations 10 mois par année à un collège privé. Et malgré la pandémie, alors que notre secteur, notre industrie était fermée, les écoles continuaient d'opérer. Donc, on continuait quand même de percevoir ce loyer-là de notre locataire, ce qui nous a quand même donné un bon coup de main. Et ben, on a aussi des camps de jour. Puis, il y a eu une aide financière en 2020 quand même substantielle, là, qui était quand même intéressante au niveau des camps de jour. Donc, il y a eu un impact financier. Ça a été difficile pendant comme, tu sais, un an. Mais une fois qu'on a réussi à rétablir ça, on arrive à reprendre le rythme.
Excellent. Il faut que je te fasse une anecdote parce que moi, le premier camp de vacances que j'ai été, c'est à EPFI.
Oui.
En sixième année au primaire, c'était notre espèce de bal des finissants qui se passait au camp EPFI. Et tu me connais quand je suis dans les... Je suis dans des soirées, je m'arrange qu'ils durent le plus longtemps possible. Et alors qu'on avait deux pavillons séparés, les gars et les filles, bien sûr, en soirée, après avoir fait mon premier slow à vie avec une charmante demoiselle, ben, j'ai décidé que je voulais poursuivre la fête. Et donc,
dans une chambre.
Ben oui, pendant que tout était fermé, je me suis glissé dans le pavillon des filles. Et là, on avait bien du fun jusqu'à temps que le professeur cogne à la porte. Et là, sachant que j'étais pris un peu comme un rat, j'ai dit aux filles, rentre avec moi, une des filles rentre avec moi dans la salle de bain, pars la douche, on va faire à croire que tu prends ta douche.
Ben oui.
Et moi, j'étais caché dans la douche.
La douche, ben oui.
Voilà, exact. Mais ça a été un super beau souvenir. Et à quelque part, moi qui a toujours grandi dans les camps de jour, ben ça a été un début de dire, hey, moi, un camp de vacances un jour, j'aimerais ça. Donc, c'est mon souvenir de EPFI, donc qui restera gravé dans ma mémoire.
Mais je suis contente, puis ce que j'aime, tu sais, puis je le dis, puis je le disais à M. Dubois, le fondateur, parce que M. Dubois, c'est sûr que, tu sais, je te disais tantôt, il était maire des Jeux du village olympique, tu sais, il a eu l'Ordre du Canada, il a reçu beaucoup de prix, il a eu beaucoup de réussites, mais à chaque fois qu'il m'en parle ou qu'il m'en parlait, puis je lui disais, tu sais, il me disait, ah, les Jeux olympiques, on était ambitieux, je disais, avez-vous réussi vos ambitions? Puis il me dit oui, tu sais. Il dit, mais il n'y a jamais rien qui va me rendre plus fière qu'EPFI.
Ah.
Dans son livre, alors qu'il parle de tous ses projets professionnels, il y a le plus gros chapitre, c'est EPFI, puis ça s'appelle EPFI, mon bébé. Puis quand il m'a dit, ce qui me rend le plus fier, c'est que vous poursuiviez l'aventure, tu sais, que ça continue, même si c'est plus notre famille. Puis je lui disais, puis je le pense sincèrement, tu sais, pour moi, l'acquisition d'EPFI, ce n'est pas une opportunité, c'est un privilège. C'est un privilège pour exactement ce que tu viens de dire là, parce que tous les gens à qui je travaille, ils ont toujours une petite, tu sais, à qui je parle d'EPFI, ils ont une petite anecdote. Hey, je suis allée là, on a fait ça, tout ça, puis ça me fait toujours plaisir. Puis c'est comme, des fois, j'en reviens pas, tu sais, qu'EPFI, maintenant, c'est nous, tu sais, c'est notre équipe, c'est la. Fait que, ça me fait plaisir que tu aies vécu ça.
On est rendu à la période où est-ce que c'est pas moi qui pose des questions, c'est l'invité précédent, donc Mélodie Poulin de Granby. Donc, elle avait trois questions pour toi.
Parfait.
La première, quel est l'endroit où tu te sens le mieux dans ta vie?
L'endroit où je me sens le mieux dans ma vie, je dirais à mon chalet.
Et la deuxième sous-question à ça, c'est est-ce que tu y vas assez souvent, cet endroit-là?
Non.
Pourquoi, Marie-Lise? Pourquoi?
En fait, c'est le chalet familial. Donc, c'est un chalet que mon père a construit quand on était jeune. C'est drôle, c'est juste à côté du camp Nomineng. C'est à Nomineng. Fait que je vois souvent les jeunes du camp quand je vais la fin de semaine. C'est un endroit paisible. Mon père, il a les terrains de chaque côté. Donc, il n'y a pas de voisins proches. Il y a une partie que c'est la réserve faunique. Fait qu'il n'y a pas de construction. C'est super tranquille. Donc, j'adore ça. Mais c'est sûr que les meilleurs période pour y aller, c'est l'été. Donc, c'est difficile. Et comme c'est chalet familial, c'est sûr que c'est prioritairement mon père qui y va. Et mon père étant dans la construction, ben, les vacances de construction, c'est l'été, tout ça, fait qu'il y en a moins de disponibilité, mais on essaye d'y aller le plus souvent possible.
Ben, peut-être qu'il va falloir un jour que tu aies ton propre chalet, comme ça tu vas pouvoir y aller quand tu veux. Deuxième question de Mélodie, si tu gagnais à la loto, que ferais-tu? Le premier move que tu fais, la première chose que tu fais?
J'investis, et c'est drôle parce que mon chum et moi, avec un petit verre, on a souvent cette discussion-là.
On a souvent gagné des millions avec un petit
On a
verre.
souvent gagné des millions et mon Dieu qu'on les gère pas de la même façon. Fait que si ça nous arrivait, je sais pas ce qui nous arriverait, mais je le mettrais presque tout dans Edfi. Tu sais, Edfi a besoin quand même d'un coup de pouce au niveau des infrastructures, d'un petit coup de jeunesse. On a tellement de projets, de choses qu'on voudrait faire, puis les limites sont toujours financières. Donc, en tout cas, souvent financières.
Mais
J'ai
mettons un petit rêve personnel pour toi, là, un
un
petit
petit
défi.
rêve personnel.
Garde un peu d'argent pour toi, là.
Je m'achèterais un pied à terre à Vancouver.
Oh, pourquoi Vancouver?
J'adore Vancouver. C'est une ville que je trouve extraordinaire. C'est une ville verte. C'est une ville, tu sais, quand tu es au centre-ville de Montréal, il y a comme un ancien volcan qui est éteint, qui a des gros jardins, fait que tu peux te promener là-dedans. Tu es sur le bord de l'eau, tu es à 1 heure de Whistler pour aller faire du ski. Je trouve qu'il y a comme plein d'écosystèmes à proximité. Je trouve que les gens sont chaleureux. C'est un des endroits que j'aime le plus visiter.
Tu as été à quelques reprises?
Et
Good.
j'aime bien ça.
Troisième question. J'aimerais connaître la personne que tu trouves la plus marquante, inspirante en lien avec les camps. Est-ce qu'il y a des
Ben,
gens qui t'ont marqué?
je suis obligée de te dire Monsieur Dubois, là, comme je te dis, je veux dire, pour moi, c'est un monument. Tu as besoin d'un pep talk, t'appelles Monsieur Dubois, là, sans aucune hésitation. Et pour moi, c'est une personne extraordinaire que je connaissais très peu quand j'ai commencé à travailler à Edfi, mais qui pour moi est un modèle extraordinaire d'ambition, d'innovation, d'aller au bout de ses rêves, de pousser les limites.
On va parler de tes passions maintenant, Marie-Lise. Si je te demande quelques-unes de tes passions, tu me dirais quoi?
Joe Sakic.
Oui, Joe
On
Sakic.
en a parlé.
On en a déjà un peu parlé ensemble. J'étais un peu éberlué, mais écoute, ça semble évident.
Je suis une personne surprenante. Oui, Joe Sakic, qui est une personne, je suis une grande fan des Nordiques, bien que je vienne des Laurentides. Mon père, quand j'étais toute jeune, il m'amenait quelques fois par année. On faisait 4 heures de route. On allait à Québec, on allait voir des matchs des Nordiques. Puis moi, Joe Sakic, c'est.
D'ailleurs, on ne le voit pas, mais derrière, c'est toutes des photos avec Joe Sakic.
Oui, exact.
Voilà.
Non, mais tu sais, je t'ai dit, je me suis déjà inscrite au banquier. Et dans mon projet, qu'est-ce que
Non,
tu fais si tu gagnes? Je vais voir Joe Sakic au Colorado. Je suis sûre. J'adore Joe Sakic. C'est une passion. J'ai une collection de cartes de hockey de Joe Sakic. Oui, je suis sa carrière. Je ne sais pas pourquoi. Sûrement le premier Rhum depuis que j'étais jeune qui était inspirant. Il était rassembleur pour son équipe. Un beau gars.
Parenthèse, pendant que tu parles du banquier, moi aussi, je m'avais inscrit au
C'est
banquier.
ça.
Mais écoute, j'avais fait une vidéo avec mes jeunes répits pendant toute la fin de semaine, des séquences avec mes jeunes répits. On jouait au banquier, puis on était dehors, on faisait des activités. Puis là, j'avais dit aux jeunes, écoute, si je suis au banquier, je vous amène toutes. Ça va être le party. Puis là, les jeunes étaient primés. Puis là, un mois plus tard, as-tu eu des nouvelles? Non, pas encore, mais ça s'en vient. J'ai jamais eu de nouvelles. On m'en a parlé pendant 3 ans, les jeunes. Mais là, on va-tu au banquier? On y va pas.
Impossible. Oui, mais te connaissant, t'aurais dû faire je sais pas, une cérémonie, non,
Je
une
sais pas.
répétition.
Ça a pas marché. D'après moi, j'étais trop primé. Je sais pas.
Moi
Bon,
non plus,
autre passion que Joe Sakic, Marie-Lise.
oui, autre passion. Je te dirais la littérature.
Oh!
Je suis une personne qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la littérature. Beaucoup la littérature jeunesse.
OK.
J'ai une collection de plusieurs centaines de livres dans mon sous-sol.
Wow!
De livres jeunesse. Ouais, vraiment, j'ai une bibliothèque complète.
Bon, mais mettons que tu nous donnes, là, je ne veux pas te mettre sur le spot, mais deux, trois, soit auteurs ou livres que tu dirais, ça, faut prendre le temps de lire ça, tu me dirais quoi?
Oui, ben, pour les enfants, ceux qui n'ont jamais lu La petite casserole d'Anatole, Vous pouvez même la trouver sur YouTube. Ils ont fait une vidéo d'animation à partir de ce livre-là. Moi, je le lis dans toutes mes formations. Dans le fond, c'est l'histoire d'Anatole. C'est un petit gars qui marche, puis il y a une casserole d'accrocher après lui. Puis là, il dit la casserole, elle s'accroche partout, ça le fâche, ça le fait sacrer, ça, tu sais, fait que là, donc c'est comme un sous-entendu, c'est qu'il y a une difficulté, un handicap, un, tu sais, peu importe, mais qui est représenté par la casserole. Puis à un moment donné, il rencontre quelqu'un qui il fait avec de la laine un petit baluchon pour sa casserole, puis fait que là, il se l'attache en sac, fait que là, il s'accroche plus partout, puis sa vie va beaucoup mieux. Fait que la morale, ce que je dis à mes moniteurs, c'est soyez à un moment donné cette personne-là.
Ben oui.
Offert le petit baluchon. Fait que ça, je propose ce livre-là vraiment à tout le monde. J'ai
Super.
vraiment adoré ça. Oui.
J'ai une ancienne animatrice du camp qui est quand même une grande auteure québécoise de livres jeunesse, entre autres. Elle fait d'autres choses. Marie-André Arsenault, est-ce que tu la connais? Tu iras voir
Je vais aller voir, c'est
ses
sûr.
œuvres. Oui.
Oui, c'est sûr, je vais aller voir ça. Peut-être que quand je vais taper, il y a des titres qui vont. Je suis vraiment meilleure pour reconnaître, pour me souvenir des titres que des fois des.
Des livres. Donc, tu dois lire beaucoup de livres à tes enfants.
Beaucoup.
OK. C'est
Beaucoup.
un rituel à la maison avant de se coucher, une petite
Ouais,
histoire.
avec les voix, je les anime, puis tout, là. Puis là, ma fille, elle est en première année, commence à lire, Yannick.
Oh oui, ben là, c'est ça, on
Là,
commence.
c'est exceptionnel, parce que des fois, c'est elle qui lit, fait que c'est encore plus le fun.
Donc, toi, si tu t'en vas à quelque part, tu as toujours un livre de
Ah ouais.
caché dans ta valise?
Partout, j'en ai partout. J'en ai dans ma salle de bain, dans mon auto, j'en ai partout.
Le livre, mettons, là, sorti de nulle part, là, tu sais, qu'on ne s'attend pas que tu dis, hey, ça, prenez le temps de lire ça, vous allez être surpris.
Qui était prêt, je l'ai.
Oh, tabarouette! Oh, si t'as pas préparé, là.
Non, je sais, je comprends pas. Persépolis.
OK. Peux-tu nous résumer ça, oui?
C'est une bande dessinée.
OK.
Puis c'est l'histoire d'une jeune fille iranienne, dans le fond, qui
Oh.
raconte son histoire. Fait que c'est une histoire vraie, puis qui raconte un peu. Et je trouve qu'en tout cas, actuellement, en plus, avec tout ce qu'on vit au niveau des femmes iraniennes, tu sais, celles qui, bon, tu sais, celles qui avaient, qui portaient mal son masque, pas son masque, je m'excuse, son voile et tout ça, ça parle un peu, elle, de sa vie en Iran. De ce qu'elle a vécu. Après ça, elle a quitté, étudié ailleurs, est revenue et de voir son attachement quand même pour sa culture, son peuple, malgré tout ce dont elle a été témoin. Puis c'est une petite fille qui, au début du livre, c'est une petite fille, là, elle a 9-10 ans, mais déjà très revendicatrice, elle est très. J'ai adoré ce livre-là, donc je le
Wow,
propose. Ça se
merci.
lit bien en BD.
Ben oui, et puis parlant de BD, mon garçon Hugo, qui vient juste d'avoir 10 ans, son grand-père a décidé pour cadeau, il s'est dit, il tripe sur les BD, Hugo, fait que, j'ai dit, il aurait pu acheter 2-3 BD de même, simplement, non. Lui a décidé qu'à sa fête, il a fait manquer une journée d'école. Il l'a amené à Montréal, il a ouvert un magasin de BD qui était fermé à cette heure-là habituellement, le matin. Et il a dit au gars, vous allez prendre mon petit-fils, vous allez le promener, vous allez lui conter plein de choses. Puis à la fin, il va s'acheter 5 BD que vous avez conseillés. Fait qu'ils ont passé 2 heures tout seul dans le magasin avec le vendeur qui expliquait différents styles de BD. Écoute, ça a été formidable pour lui. Il est
Magnifique.
venu. Son frère est tellement. Hugo est tellement généreux qu'il a ramené des BD pour son frère et sa sœur en disant, ah, je pense que c'est un sujet qu'il aimerait ça, puis tout ça. Fait que c'est une expérience qu'il va se souvenir toute sa vie, c'est sûr.
Mais hein, puis je pense, tu sais, j'en profite s'il y a des gens qui écoutent encore, j'espère, à 48 minutes de
Oui,
notre. Non,
ben oui, ben
mais
oui.
mon ancienne coordonnatrice de mon camp de vacances, qui s'appelle Laurence, elle a réalisé un de mes rêves. Elle a ouvert une librairie jeunesse à Saint-Adèle. Ça s'appelle la librairie Le Sentier. Fait que c'est une petite maison, t'sais, quand même vieille, avec beaucoup de cachets. Fait qu'ils ont acheté la petite maison, ils l'ont transformée en librairie jeunesse. Elle, c'est une ancienne enseignante aussi. C'est une ancienne fille des camps. Fait qu'elle est super fine, super dynamique. Elle est une super libraire. Donc, il y a quand même une section adulte aussi au deuxième. Mais c'est principalement à vocation pour les jeunes. Puis, s'il y en a qui passent par Saint-Adèle, ça vaut le détour.
Dernière question sur les passions, là. Un
Oui.
jour, je sais que tu travailles très, très fort. Un jour, tu vas prendre possiblement ta retraite. C'est quoi la passion que tu aimerais développer que tu n'as pas le temps de faire présentement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient à l'esprit?
Oui, j'aimerais ça écrire un livre.
Oh oui!
J'aimerais. J'ai commencé à écrire un livre,
Ah
Yannick.
ben ça, je ne le savais pas. Je suis content. Un scoop!
Un scoop? J'ai commencé à écrire un livre sur une de mes plus poches histoires d'amour, mais elle est tellement poche que ça fait
Est
bon.
bonne.
Elle est bonne.
Ça
Fait
va
que si...
être un dramatique, c'est quoi?
Non, ça
C'est.
va être un chick-lit, là,
OK.
tu sais, que tu lis un livre qui est ten, là, mais j'espère qu'à ma retraite, j'aurai quelque chose, tu sais, je pourrais écrire un livre, genre, sur l'entrepreneuriat, sur les femmes en affaires, tu
Wow.
sais, quelque chose de cool, mais ou un livre jeunesse, je vais souvent au Mexique avec mon chum, et je capote sur les coati, tu sais, là,
Je connais pas.
c'est comme les ratons, mais du Mexique, ils ont
OK.
un long nez, je les trouve mignons au bout. Fait que je m'étais dit aussi que j'écrirais à un moment donné un album jeunesse dont le personnage principal serait le Kwati.
Ah, ben, écoute, Marie-Lise, il faut que tu le fasses, puis je vais être un de tes premiers lecteurs. Là. Quand tu vas sortir ça, faut que je le sache, puis ça va me faire
T'envoie.
plaisir. Oui, faut que j'en profite. Il y a une nouvelle catégorie depuis septembre, c'est deux sujets, un choix. Je te donne un mot, puis t'as le choix entre deux questions. Fait que c'est langue. Fait que est-ce que tu veux y aller avec langue française ou délier la langue? Laquelle des deux questions tu vas avoir?
Ah, oh, langue française.
Que penses-tu de l'avenir de la langue française? Est-ce que tu vois des différences, toi qui accueilles beaucoup de gens de l'extérieur du pays? Est-ce que tu as peur à ton français, en fait?
Absolument. Je fais partie de ces gens. On en entend beaucoup parler actuellement aussi dans l'actualité. Je fais partie de ces gens qui ont une inquiétude par rapport à l'avenir de la langue française. Je pense que je pense que le fait, évidemment, qu'on est dans un pays majoritairement anglophone, là, ça a des incidences. Je pense que les nouvelles générations aussi, tu sais, je pense que l'avènement des réseaux sociaux, tout ça, tu sais, on commence à parler un peu en franglais. Je le vois avec mes enfants, elle a 6 ans, puis moi, je n'utilisais pas ces mots-là en anglais quand j'avais 6 ans. Fait que je commence à avoir cet impact-là. Oui, puis je trouve que la langue française, c'est partie intégrante de notre culture, c'est partie intégrante de notre histoire. Et je suis quand même une fervente défendresse de la langue française. Et voilà.
Et c'est tellement vrai ce que tu dis. Moi, j'ai remarqué depuis 5 ans environ, les animateurs, les jeunes adultes, de plus en plus, ça parle, puis effectivement, c'est du franglais tout le temps. C'est rare qu'il y ait une phrase au complet qui est en français, ça a un mot anglais. Puis moi aussi, ça m'inquiète beaucoup. Et je me dis comment qu'on va faire pour tourner la roue de l'autre côté. Est-ce que tu as une idée? Comment qu'on va faire pour que ça soit important? Parce qu'on le sait, de plus en plus, les jeunes sont tournés vers l'international, multiculturel, mais donc l'anglais, comment qu'on va faire pour garder notre culture, notre langue?
Mais je pense premièrement qu'il faut s'impliquer, il faut rappeler à nos politiciens, surtout au niveau fédéral, qu'il y a deux langues officielles au Canada, donc on ne peut pas répondre et faire la plupart de nos sorties toujours en anglais. Tu sais, ça part de là, c'est nos leaders, c'est ceux qui... Mais après ça, je pense que ça passe beaucoup par la promotion de la culture. T'sais. Je pense, comme je te dis, la littérature, je pense que dans les écoles, de faire découvrir des auteurs québécois ou... Ça peut être français aussi, mais de lire en français. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend. On apprend à bien écrire en français en lisant. T'sais, moi, je crois vraiment à tout ce que ça apporte, la lecture. La musique aussi, t'sais, on en parle. Je pense qu'il y a des efforts qui sont faits par rapport à ça. Tu vas sur Netflix, maintenant, tu vas trouver, t'sais, tu commences à trouver des productions québécoises avec les gens qui parlent en français. De mettre la lumière sur les artistes qui chantent en français. Tu sais, je pense qu'il faut réussir à le baliser pour toujours nous assurer que nos artistes, puis tu sais, ceux qui influencent, là, ben, il y a toujours une place pour ceux qui sont francophones.
Est-ce que chez vous, c'est important pour toi de faire découvrir la musique francophone et les films québécois, par exemple? C'est important pour toi de...
C'est super important, d'autant plus que je parle très mal anglais. Alors...
l'aide.
Au niveau du français, moi, je suis très à l'aise. Mais oui, c'est super important pour nous. Puis oui, on amène, t'sais, moi, j'amène mes enfants à voir des pièces de théâtre. Je m'en vais avec ma fille voir les Cowboys fringants au Centre Bell, même si elle a 6 ans. On les amène voir des spectacles, on leur fait écouter. Puis comme je te dis, on lit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que Je souhaite vraiment que mes enfants. Puis pas juste dire je parle français parce que c'est le fun de parler français. T'sais. Je parle français parce que c'est important de parler français, parce que c'est ma culture, parce que c'est mon histoire. Puis c'est important que ça perdure. T'sais, dans...
Et parce que justement, on se distingue par ça, puis je trouve ça important, justement, cette distinction-là. Puis tant mieux, on a comme quelque chose que les autres, malheureusement, certains n'ont pas, donc il faut être fier de ça. Deuxième question, sens. Est-ce que tu y vas avec les cinq sens ou le sens de l'orientation?
Ah, mon Dieu, le sens de l'orientation.
Mis à part Vancouver, quelle est la place que tu as trouvée le plus beau dans le monde? Que tu dis ça, ce voyage-là, là, j'aimerais ça y retourner ou je te le conseille, il faut vraiment y aller.
L'Alaska.
Oh, conte-moi
Ouais.
ça en une minute, l'Alaska.
Ben écoute, j'ai fait une croisière il y a 3 ans, je pense, avec mon copain et son père. Et ma fille qui avait un an, 2 ans à ce moment-là. Puis on s'est dit, hey, pourquoi pas faire une croisière en Alaska? T'sais, les gens, ils vont plus dans les Caraïbes, en Europe. Puis nous, on aime ça, les destinations insolites. Fait qu'on s'est dit, hey, on va faire une croisière en Alaska. Et j'ai adoré les paysages, j'ai aimé. Puis on parle beaucoup, t'sais, des changements climatiques, on parle beaucoup du réchauffement de la planète. Quand tu arrives en Alaska, tu rentres dans Glacier Bay, qui est comme un parc là-bas, puis il y a des biologistes qui embarquent sur le bateau, qui viennent parler des animaux, puis tout ça. Puis on a posé beaucoup de questions sur la fonte des glaciers parce qu'ils nous montraient une carte, là, Yannick, il y a 400 ans, la glace arrêtait ici, puis
Aïe,
ça nous a pris 4 heures de nous rendre où est-ce
non.
que. T'sais, où est-ce que maintenant il y a encore de la glace? T'sais, les glaciers tombaient devant nous, t'sais, les s'effritaient. C'était... Mais de voir qu'effectivement, ce sont des gens qui vivent là, t'sais, avec les animaux, la faune, la flore, tout ça là-bas, qui vivent là, qui vivent. Et moi, j'ai ressenti quand même moins d'inquiétude dans le sens qu'ils disent, t'sais, avec l'inclinaison de la Terre, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a toujours une inversion, je pense le mot, des pôles, donc, mais qui sont quand même inquiets de la vitesse à laquelle ça se produit, effectivement. Fait que c'était un voyage qui était quand même très. C'est ça, on visitait des glaciers, on est allé dans la ferme d'une femme qui habitait là, on est allé au Yukon, dans un parc, en haut d'une montagne. C'était magnifique.
Je te reconnais. Pas pareil comme les autres. Destination insolite, c'est parfait. Hey, on est déjà rendu à la fin, Marie-Lise.
Déjà!
Je suis rendu aux commentaires des gens, des petits mots qu'on m'a envoyés sur toi. Donc, je te lis ça.
Ah.
Essaye de deviner c'est qui. C'est pas facile comme jeu, là.
Non, OK.
Donc, première personne, c'est une personne. Donc, bien sûr, on parle de toi. C'est une personne agréable à côtoyer, toujours souriante, qui a un sens de la justice, engagée et qui travaille très fort pour arriver à ce qui est rendu aujourd'hui. On la connaît également pour ses nombreuses péripéties. Tout lui arrive en même temps lorsqu'on pense que ça peut arriver à personne. Je te donne un indice, c'est quelqu'un qui travaille avec toi sur le conseil d'administration.
Ben, je dirais Olivier, probablement.
Eh bien non, Nancy
Non.
Roson, Nancy
Nancy!
Roson,
Oh
oui.
mon Dieu! C'est vrai que Nancy, j'y raconte parfois quelques anecdotes.
Oui, parce qu'il faut savoir, c'est que Marie-Lise a toujours un incident. J'en ai parlé dans mon poème du début. Il y a toujours quelque chose qui se passe de son côté.
Je sais pas ce qui se passe avec moi.
Deuxième personne. Marie-Lise est une personne exceptionnelle et une entrepreneur remarquable. Sa créativité, sa vivacité, surtout son efficacité, est seulement quelques-unes de ses nombreuses qualités. Marie-Lise est une alliée de très haut niveau pour le monde des camps. Oh. Un
Mon Dieu.
allié. De qui tu pourrais être une bonne alliée? Miguel, oui, maître.
Ah, oh, Miguel.
Miguel, Miguel.
Miguel,
Et...
Miguel, mon nouveau mentor.
Oui, bon, mais ça en apprend, ça en apprend.
Oui.
Dernier petit mot. Marie-Lise est une personne passionnée, impliquée et qui a la joie de vivre incroyable. Cependant, elle peut être parfois gaffeuse, notamment concernant les blessures. Cela ajoute sans doute à son charme. Attachante et généreuse, elle se soucie du bien-être de chacun avant de penser à elle-même. Elle va sans dire qu'elle sera difficile de trouver une collègue ou une grande amie qu'elle est.
C'est sûr, c'est Lara.
Ben oui, c'est
Ma
Lara.
collègue de blessure.
Voilà, qui se blesse elle aussi avec
En
toi.
même temps. Ah, c'est vraiment gentil.
Marie-Lise, ça a été extraordinaire. Puis ce que j'ai découvert de toi, en fait, je le savais déjà un peu, mais il y a beaucoup de points en commun qu'on a. tes passions, la façon que tu vois la vie. Puis, tu es une personne vraiment à découvrir. Il faut prendre le temps de parler à Marie-Lise. Donc, les gens, ceux qui la croiseront à un congrès ou à un autre événement, prenez 2 minutes pour parler à Marie-Lise parce que moi, quand j'ai pris ces 2 minutes-là, ben, maintenant, je suis pogné pour une demi-heure, 1 heure ou plus parce que j'ai du fun à parler avec cette fille. Merci beaucoup d'avoir participé. Puis, continue à bien faire, à être fille. Tu apportes beaucoup à la communauté des camps et donc, on est très content de t'avoir avec nous.
C'est
Merci, Marie-Lise.
vraiment là, un honneur que tu aies pensé à moi. Et je te retourne le compliment. Tu es un monument de l'association. Le CA sans toi, ce ne sera pas pareil. Sans le chien de garde, Yannick.
Eh
Mais
bien,
merci beaucoup.
ça fait plaisir. Merci.
Bye-bye.
Excellent. On n'est plus
Non,
enregistré.
OK! Je reste dans...